Eh bien, il y a un homme qui est resté pendant des années sur une île déserte. Des années, tout seul. Finalement, il a été secouru. Alors, ceux qui l'ont secouru, les sauveteurs, viennent le chercher et tout ça. Puis là, il remarque sur l'île qu'il y avait trois huttes. Alors, il demande au gars, il dit, « Je vois ces trois huttes-là, c'est quoi ça? » Ah, le gars, il dit, « Celle qui est à gauche, eh bien, c'est pas compliqué, c'est ma maison. » Ah, OK. Il dit, « La deuxième, il dit, c'est mon église. » OK. Fait que, mais là, le sauveteur, il dit, « OK, mais il y en a une troisième, c'est quoi ça? » Ah, il dit, « Ça, c'est mon ancienne église. » Alors, l'histoire est un petit peu sarcastique là ici, là, mais ça met en lumière un point très important. C'est que vraiment, les relations entre les frères et les sœurs, c'est pas toujours simple, n'est-ce pas, dans les églises. Ça va arriver. Et pourtant, les relations dans l'Église, c'est tellement important que le Nouveau Testament va passer quand même une bonne partie pour en parler. D'ailleurs, vous serez peut-être surpris d'apprendre que Paul, l'apôtre Paul, va passer autant d'attention, va mettre autant d'attention sur les relations entre frères et sœurs qu'il en met sur la doctrine de la justification. C'est quand même gros, là. C'est pas peu dire, parce que la doctrine de la justification par la foi, le salut par la foi seul en Jésus-Christ, c'est quelque chose de gros, ça occupe de grandes places dans le Nouveau Testament, c'est majeur, c'est le message de l'Évangile. Et pourtant, Paul va consacrer beaucoup de temps sur les relations, autant que la justification. Maintenant, le Nouveau Testament parle à différents endroits. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, on va s'arrêter sur quelques-uns des passages, et j'aimerais commencer avec Romains, et on va regarder le livre aux Romains dans le 14e chapitre. Mais juste avant de tourner là, on va juste remettre le restant de ce temps ensemble au Seigneur. Eh bien, Seigneur, on veut te remercier pour ce temps en Église, ces temps de louange, pour l'équipe de louange et pour tous ceux qui travaillent ici, que ce soit les moniteurs, monitrices, zone enfant, dans le stationnement, à la sécurité, et ceux qui s'occupent du ménage. Il y a tellement de gens ici qui retroussent les manches pour te servir et on veut te bénir pour cette belle famille. On te prie ce matin que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur, que tu puisses nous parler, nous toucher par ce message si important de nouer, de bâtir de vraiment des relations saines au sein de l'Église entre frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, Romains 14, si vous voulez bien vous joindre à moi pour ce passage. Dans Romains 14, c'est l'apôtre Paul qui écrit cette lettre, mais inspiré du Saint-Esprit. Alors, voici ce qu'il dit. On va lire les quatre premiers versets, puis après ça, on va reprendre la lecture un peu plus loin, au verset 13. « Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter des opinions. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout, l'autre qui est faible dans la foi ne mange que des légumes. » Bon. J'aimerais faire une parenthèse ici. On n'est pas en train de suggérer que les végétariens sont faibles. On ne parle pas de ça ici. Là, on est en train de parler de gens qui avaient des convictions religieuses. C'était religieux. C'était, il y avait des restrictions alimentaires. Il y en a qui collaient aux lois de l'Ancien Testament alimentaires et tout ça. Puis ils avaient de la difficulté. Ils ne saisissaient pas tout à fait à 100% l'Évangile et toute la grâce et tout ça que le Seigneur a apporté. Le beau message de l'Évangile. C'est dans ce sens-là qu'ils sont faibles. Ils ont une compréhension limitée de l'Évangile. Alors que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et que celui qui mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir. Alors on poursuit la lecture au verset 13. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais, je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Regardez bien verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Vous voyez ce verset-là? C'est important, là. Recherchons ensemble ce qui contribue à la paix et aussi à nous faire grandir mutuellement dans le Seigneur. Maintenant, on pourrait appeler Romains 14 l'unité dans la diversité, parce qu'il y avait vraiment des gens, et c'est ce que ça ressort très fort ici, parce qu'il y avait des chrétiens dans l'Église qui n'avaient pas du tout le même bagage, ni le même arrière-plan. Il y avait des juifs et des non-juifs qui sont venus au Seigneur, et chacun avait leur conviction et puis leur compréhension. Alors, ils sont arrivés dans l'Église et ils avaient leur bagage, et qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé des jugements, des tensions ici entre ces personnes. L'unité de la famille de Dieu, c'est important. Ça a un impact sur le rayonnement et l'avancement de l'Évangile. En même temps, la diversité, c'est aussi important. C'est même un sujet qui va pousser l'apôtre Paul à glorifier le Seigneur pour ce miracle. C'est tout un miracle d'unir des gens qui autrement ne se seraient jamais entendus, même parler. Ces deux grandes réalités, l'unité et la diversité, ça doit coexister dans l'Église. Mais c'est pas évident, parce que la diversité ne fait pas l'unité. On reste humain. On a tous tendance à se juger, des gens qui pensent pas comme nous autres, des gens qui agissent pas comme nous autres. Et c'est ce qui arrive ici à Rome, à l'Église de Rome, à l'époque de Paul. Maintenant, l'amour de Jésus a réuni miraculeusement ces Juifs et ces non-Juifs. Ils n'avaient pas grand-chose en commun. Ça a créé des conflits assez forts pour ces deux groupes-là. Alors, c'est ces Juifs devenus chrétiens et ces non-Juifs devenus chrétiens. Maintenant, on n'aura pas le temps de regarder tout ce qui a causé ce conflit dans le passage, mais je veux plutôt m'arrêter sur ce que le Seigneur nous demande ici comme enfants de Dieu. Et si on résume le passage, le message est de se supporter les uns les autres et de s'accueillir chaleureusement les uns les autres. Alors, on est toujours dans notre série « Ensemble » et ce matin, on veut s'arrêter puis regarder comment vivre ensemble en Église. Et ce que Paul nous dit essentiellement, c'est qu'on prenne soin les uns des autres. Et on l'a vu au verset 19, n'est-ce pas? Rechercher ce qui contribue à la paix, mais aussi à ce qui contribue à aider, à s'aider mutuellement à grandir dans le Seigneur. Alors, pourquoi c'est si important de prendre soin les uns des autres? Maintenant, on pourrait regarder plusieurs raisons. En prenant soin des autres, les uns des autres, on incarne l'amour de Jésus, on encourage la croissance spirituelle, on cultive vraiment un environnement où chacun va s'épanouir et surmonter les défis de la vie. On s'entraide. Ce sont des bonnes raisons, puis on pourrait s'arrêter sur ces raisons-là. Mais ce matin, j'aimerais plutôt m'arrêter sur quelques-unes des raisons que la Bible nous donne, pourquoi c'est si crucial qu'on prenne soin les uns des autres. Et ça commence avec ta nouvelle identité avec Jésus. En plus, c'est que tu as reçu des dons spirituels, un don surnaturel qui te rend capable de prendre soin les uns des autres et d'édifier l'Église. Et pour terminer, on veut regarder l'aspect puissant de ton témoignage dans le Seigneur. Alors, on a une nouvelle identité en Jésus-Christ. Si tu es venu au Seigneur, la Bible dit que la personne qui vient à Jésus et place sa foi en lui pour avoir son salut, pour avoir le pardon de ses péchés, cette personne-là est déclarée une nouvelle créature. Elle est déclarée, là, sainte, nouvelle, pardonnée, adoptée dans la famille de Dieu. Elle est déclarée habiletée. Elle reçoit des dons. Elle est aimée, récompensée et elle est déclarée victorieuse. Oui, si tu es en Jésus, tu es une nouvelle personne. C'est ce que la Bible dit. On retrouve quelques métaphores dans le Nouveau Testament pour décrire l'Église et l'une des plus importantes pour les chrétiens, c'est la famille, la maison de Dieu. Éphésiens 2, 19 le dit bien, ça dit « Vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Une famille, ça partage tout ensemble. Ça mange ensemble, ça vit ensemble, ça travaille ensemble. Et ça, c'est l'attitude que l'on devrait avoir comme enfant de Dieu au sein de l'Église. Regardez ce que Paul dit au verset 10 dans Romains 12. « Par amour fraternel, alors fraternel, ça parle de famille, par amour familial, si on veut, entre nous, les chrétiens, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Et écoutez bien ce que ça dit. « Rivaliser d'estime réciproque. » Et c'est tout un mot, ça. « Rivaliser », c'est quasiment comme un concours. Tu veux être le premier à honorer l'autre. tu veux être le premier. Laisse-moi être le premier. Je vais me dépêcher à t'honorer. C'est ce que ça dit, rivaliser d'estime réciproque. Peux-tu t'imaginer si on avait cette attitude dans nos foyers? Tu dis à ta femme, hey, je veux être le premier à t'honorer. Je veux être le premier à te traiter avec respect, t'élever, t'encourager. Imaginez si on avait cette attitude-là, hein, les deux, n'est-ce pas? Rivaliser d'estime réciproque. Ça signifie que tu es beaucoup plus soucieux de louer, d'affirmer, d'honorer et de célébrer les autres que tu l'aides à recevoir la même chose. Comme enfant de Dieu, tu veux être des personnes promptes à louer, à célébrer ce que les autres ont fait et comment ils grandissent. On veut être des personnes qui aiment louer, apprécier et faire des déclarations de soutien. Si tu vois ton frère ou ta sœur qui se développe ou progresse dans quelconque domaine, que ce soit au niveau de grandir dans sa paix, dans sa joie, dans sa façon de se maîtriser, maîtrise de soi, on veut les affermir. On veut souligner leur progrès. On veut être des cheerleaders entre nous. On veut affermir aussi les sacrifices qu'ils vont faire pour bien agir. Toutes ces choses donnent de l'honneur aux autres. Maintenant, comment honorer quelqu'un avec qui tu te chicanes? Comment tu fais ça quand tu es en chicane avec quelqu'un? Et laisse-moi poser une question qui est encore plus difficile. Comment te chicaner de manière à honorer l'autre quand tu sais que tu as raison? Bon, je pense qu'on pense toujours qu'on a raison quand tu chicanes, dans le fond. Hein? Mais comment tu fais ça? Tu es convaincu que tu as raison. Eh bien, des études ont montré par des experts qui se spécialisent dans les conflits, gestion de conflits, ils sont arrivés à la conclusion suivante. On va donner quelques conseils ici. Un cours, comment se chicaner. OK? La meilleure chose à faire, premièrement, c'est justement de ne pas essayer de convaincre l'autre que tu as raison. Un autre conseil important, c'est d'écouter. La Bible dit, sois prompt à écouter, lent à parler. C'est difficile, ça, quand tu es en chicane. Tu veux intervenir, hein? La personne se trompe, selon toi, puis là, tu veux intervenir, tu dis non, c'est pas ça, puis tu veux corriger. Un autre point. Sois 100% présent. Ça veut dire quoi, ça? C'est pas le temps de regarder ton cellulaire. Tu veux être 100% présent. 4, honorer l'autre personne, c'est de toujours chercher à édifier l'autre et non la détruire. 5, une autre façon d'honorer la personne, c'est de lui donner l'occasion d'expliquer son point de vue. C'est pas lui donner raison, c'est simplement lui donner l'occasion d'être comprise. 6, écoute attentivement et essaie de trouver la raison pour laquelle cette personne est contrariée. Cherche à comprendre. Tu vas peut-être être surpris de ce qui la dérange et peut-être même tu vas découvrir un autre aspect sur ta relation avec lui ou avec elle. 7. Si tu demandes pardon, s'il te plaît, ne dis jamais, mais jamais, si je t'ai blessé, pardonne-moi. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase-là? Si. T'enlèves juste le si, puis le reste, c'est vraiment bien, là. En disant si, tu n'es pas en train de reconnaître que tu as blessé la personne, alors qu'elle vient de t'ouvrir son cœur, qu'elle a été blessée par tes propos. Maintenant, ça se peut qu'elle soit dans le champ complètement, là. Ça se peut qu'elle ait mal compris tes intentions. Ça se peut qu'elle ait mal compris ce que tu lui as dit. Fort possible. Mais c'est pas important. Elle a été blessée. Comment demander pardon? Pardonne-moi, je t'ai blessé. C'est tellement simple. Maintenant, là, certaines personnes, là, je vous entends déjà penser, puis dire, oh, oui, mais attends un peu, là. Est-ce que demander pardon, t'es pas en train de lui donner raison? T'es pas en train de lui dire que finalement, tu avais raison? Hein? C'est ça qui se passe, je le sais. Eh bien, demander pardon, c'est pas nécessairement donner raison à l'autre personne, c'est simplement démontrer l'humilité. Demander pardon montre que tu valorises la relation et que tu es prêt à reconnaître qu'il est possible que tu aies causé un certain tort à l'autre, volontairement ou involontairement. Ça ne signifie pas automatiquement que tu abandonnes ta position, que tu lui donnes raison. C'est simplement une démarche pour restaurer la paix et la compréhension. Romains 12, 10 dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Et un peu plus loin, dans le même chapitre, au verset 21, ça dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Une autre raison que la Bible nous donne pour prendre soin des uns des autres, c'est que Dieu t'a équipé pour le faire. Il t'a donné des dons spirituels. Lorsqu'on vient au Seigneur Jésus, le Seigneur nous donne un don spirituel, une capacité divine pour accomplir son œuvre. Maintenant, ces dons-là nous sont donnés, c'est pas pour notre bénéfice personnel, c'est pour bénéficier l'Église, fortifier notre famille spirituelle qui est l'Église. Maintenant, Dieu nous donne une métaphore pour décrire son Église, et c'est le corps. L'Église est le corps de Jésus-Christ. Maintenant, on n'aura pas le temps de regarder toutes les questions des dons spirituels. On a déjà fait une série ici sur 1 Corinthiens qui s'appelle « Viral ». Vous pouvez aller voir ça sur notre site Internet. La série est là. Et essayez de trouver le chapitre 12 ou chapitre 14. On passe à travers les différents dons spirituels. Mais pour le moment, je veux vous montrer une partie du chapitre 12 qui parle justement de ce corps. Verset 4, il est dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. » Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Mais toutes ces choses, verset 11, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. Et verset 13, « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. » L'Église, c'est un corps, c'est le corps de Jésus-Christ et Jésus-Christ à la tête. Et l'image du corps illustre parfaitement qu'on n'est pas simplement un ensemble d'individus isolés. Non, on forme un organisme vivant et uni où chaque membre joue et a un rôle à jouer et qui est essentiel. Nos liens les uns aux autres sont profonds et interdépendants. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne de manière isolée dans un silo. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu, ce n'est pas du tout son plan. Paul dit que dans le corps de Jésus-Christ, chaque membre appartient à tous les autres. Paul dit, vous êtes les membres et les organes les uns des autres. Vous êtes les yeux, le bras, le cœur les uns des autres. On est interdépendants. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Ensemble, on a besoin les uns des autres. On forme un corps, le corps de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Dieu, c'est à son dessein, son plan, que l'Église soit son corps. Les implications de ce principe-là sont expliquées concrètement dans le reste du Nouveau Testament avec cette expression qu'on va revoir plusieurs fois les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, Jean 13. Supportez-vous les uns les autres, Colossiens 3, 13. Encouragez-vous les uns les autres. Édifiez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez pleins d'affection et de compassion les uns envers les autres. Saluez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Veillez les uns sur les autres. Voyez-vous cette interdépendance ici et toute cet impact spirituel qui contribue à nous aider à grandir lorsqu'on se ensemble, on prie les uns pour les autres, on s'entraide, on s'affectionne, on porte les fardeaux les uns les autres. Cette expression-là, les uns les autres, va revenir plus d'une 60 fois. C'est juste un mot dans l'original, ça va revenir plus d'une 60aine de fois dans le Nouveau Testament. Ça montre l'importance des relations entre les membres de l'Église et la manière dont on a besoin de nous entraider pour grandir spirituellement et refléter l'amour de Jésus-Christ. Et Dieu t'a équipé. Tu ne le sens peut-être pas, mais Dieu t'a donné un don spirituel si tu es venu au Seigneur Jésus. Tu es en Jésus-Christ, tu as un don spirituel. Cette capacité divine pour accomplir son œuvre et t'investir dans la vie des autres au sein de l'Église. » Alors, on ne peut pas garder ce don-là juste pour nous autres. Et c'est ce que nous dit Pierre dans 1 Pierre 4:10. Ça dit, comme des bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin quand tout Dieu reçoive la gloire qui lui est dit, qui est due à travers Jésus-Christ. Verset 11 dit, si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Et le mot de service que Pierre utilise ici, il l'utilise d'une façon très large. Ça peut inclure tout type de ministère, apporter son aide, encourager les gens, les soulager, les soutenir. Et selon Pierre, comme pour tous les dons, on sert le Seigneur avec la force que Dieu communique. Et ce mot-là, communiquer, c'est vraiment intéressant. Il était employé dans le contexte du théâtre grec. On s'en servait pour dire « payer les frais pour la formation d'un cœur ». Paye la facture, en d'autres mots. Et c'est que Dieu qui paye la facture. Dieu va pourvoir ce que tu as besoin pour servir, pour t'investir au sein de l'Église. Employé dans 2 Corinthiens, par exemple, et l'idée, c'est que Dieu fournira et multipliera nos ressources. Et Dieu va te donner tout ce que tu as besoin pour te servir. Et je sais ce qui arrive souvent, on a simplement peur. Des fois, on a une volonté, on veut, mais on a peur de se mouiller, de s'impliquer, de s'investir. On ne sait pas, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais réussir, est-ce que je vais décevoir, est-ce que je vais être déçu, est-ce qu'on va me blesser, est-ce qu'on va me critiquer. Je le sais, j'entends ça régulièrement. Mais le Seigneur est en train de te dire, je vais te donner ce que tu as besoin. Puis tu vas voir, je vais te bénir. Je vais m'occuper de toi. Alors, ce que Pierre est en train de nous dire c'est que nous avons besoin de servir le Seigneur en dépendant de sa force que Dieu va nous donner. Dieu nous demande de servir au sein de son Église, de prendre soin les uns des autres, de mettre notre don au service de l'Église, et Dieu va nous fournir ce qu'on a besoin pour le faire. Et quand on se sert de ce don-là que Dieu t'a confié, Dieu t'a donné, eh bien, Dieu est glorifié quand tu le fais dépendamment de sa force. Alors, on veut prendre soin des uns des autres, car en Jésus-Christ, on a une nouvelle identité. Tu es une nouvelle personne. Et Dieu t'a équipé pour le faire. Il t'a donné un don surnaturel, une capacité divine pour accomplir son œuvre. Mais il y a une autre raison aussi, c'est l'impact puissant de ton témoignage. Matthieu 5, 13, Jésus donne des métaphores pour décrire l'Église. Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sous un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Alors, voici ce que dit Jésus sur l'Église et comment elle peut être une communauté attirante pour le monde. Comme enfants de Dieu, nous sommes le sel de la terre. Et le sel, ça sert à quoi? Bien, ça ajoute de la saveur. Mais à l'époque du Nouveau Testament, ça servait aussi pour conserver les aliments. Alors, tu es appelé à agir comme le sel dans le monde, influencer ceux autour de toi par ton caractère, ta façon d'agir, ta douceur, tu reflètes le caractère de Christ. Alors, nous sommes le sel de la terre signifie que nous sommes appelés à répandre la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous. Par notre façon de penser, agir et servir les autres, notre attitude au travail, notre façon d'interagir avec les autres, notre manière de bâtir des relations saines les uns avec les autres. Et c'est ce que dit Jésus dans Jean 13. Il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Notre manière de vivre ensemble comme Église, c'est le témoignage le plus puissant vraiment autour de nous. Dans son livre « Évangélisation dans l'Église primitive », le Dr. Michael Green d'Oxford affirme que 80% ou plus des gens qui venaient au Seigneur à l'époque, c'était parce que les chrétiens expliquaient simplement à leur famille, à leurs amis, leur mode de vie. Et ils vivaient de telle manière que les gens étaient attirés par la beauté de leur vie. Nos relations et notre façon de vivre ensemble, de prendre soin les uns des autres, c'est vraiment une force et c'est puissant. Regardez comment la parole vivante communique ce que Pierre dit dans 2 Pierre 2:12. 1 Pierre 2:12. Ayez une bonne conduite au milieu des incroyants, qu'ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte. Ainsi, même s'ils vous calomnient, ils vous traitent, même s'ils vous traitent des malfaiteurs, lorsqu'ils examineront votre vie de plus près, vos bonnes actions leur ouvriront les yeux et ils finiront par rendre hommage à Dieu le jour où il les visitera. Lorsque vous et moi, on reflète l'amour de Jésus, ça devient vraiment une force convaincante pour la foi. Les chrétiens, c'était, à l'époque, c'était la misère, le chaos, la peur. Il y avait beaucoup de violence à l'époque. Et les chrétiens ont offert de l'amour, de l'espoir aux sans-abri, aux gens démunis. Et pour les nouveaux arrivants et les étrangers, les chrétiens ont offert de l'accueil. Les chrétiens ont cherché à protéger les personnes vulnérables, à promouvoir la justice, en mettant sur pied tout un système d'assurance sociale, d'aide publique, de l'entraide. Ils ont cherché à promouvoir l'égalité, le respect et l'entraide. Et lorsque les villes étaient confrontées à des épidémies, des incendies, des tremblements de terre, ce sont les chrétiens qui se sont levés, ont retroussé leurs manches, ils ont fait plein de services. L'Église peut être une communauté attirante quand on prend soin les uns des autres. Pendant que les musiciens approchent, j'aimerais dire encore une fois que parfois ce qui nous retient, c'est la peur. Mais il faut braver nos peurs, sachant que Dieu est là et Dieu va nous accompagner et Dieu va accomplir son œuvre. J'ai lu le témoignage d'un pasteur iranien, une histoire vraie. C'est un pasteur iranien qui conduisait sa voiture avec sa femme et puis il s'est arrêté devant un magasin pour aller chercher de l'eau. Juste devant le magasin se trouvait un homme debout avec une mitraillette. Le gars faisait peur. Et avant d'entrer, il a remarqué cet homme-là avec cette arme et cette mitraillette. Et sa femme lui a dit, il a remis une Bible dans la main de son mari, puis elle a dit, va porter la Bible à ce gars-là. Le gars a réagi. Il a dit, non, je pense pas. Alors, sa femme a dit, oui, elle dit, va porter la Bible à cet homme-là. Alors, le gars se retourne de bord, il regarde le gars, une grosse barbe, il avait l'air violent, il avait l'air agressif, fâché, tout ça, il dit, OK, je vais prier là-dessus. Elle rentre dans le magasin, s'en va chercher son eau, sort du magasin, rentre dans la voiture, puis commence à conduire. Sa femme le regarde, elle dit, t'as pas donné la Bible, hein? Il dit, non, j'ai prié. Puis finalement, c'était pas la chose à faire. Fait que la femme lui dit très doucement, t'aurais dû lui donner la Bible. Alors le gars, fâché, il dit, c'est ça, OK. Tu veux que je me fasse tuer? Alors je vais y aller. Alors le gars se retourne de bord, fait un U-turn, reviens mon ami, reviens juste en avant du magasin. Il sort la Bible, puis il va porter la Bible au gars. Le gars prend la Bible, il l'ouvre, s'aperçoit que c'est une Bible, et il commence à pleurer. Il dit, moi, je viens pas d'ici, là. Il dit, j'ai fait 3 jours de marche pour me rendre ici. Il y a 3 jours, quelqu'un est venu me voir. Il dit, je pense que c'est un ange. Je sais pas, mais la personne me dit, va te rendre à ce village-là. Quelqu'un va aller te voir et te porter le livre de vie. Alors, il regarde le gars et il dit, merci pour ce livre. Il y a 2 choses qui se sont passées cette journée-là, 2 miracles dans le fond. Premièrement, évidemment, cet homme-là qui a découvert la richesse et la beauté de l'Évangile et comment Jésus l'aimait. Il y a quelque chose qui s'est passé aussi dans le cœur de ce pasteur-là. Il est allé là peut-être pas avec des bons motifs, mais on lit la biographie de cet homme-là et on réalise qu'il est devenu un grand héros pour la foi. Le gars a trouvé le courage, voyant que Dieu était déjà là, puis il aplanissait le sentier, puis avait déjà préparé le cœur de cet homme-là pour qu'il reçoive la parole de Dieu. Et ce gars-là est devenu un grand, grand héros pour la foi. Il a apporté le message de l'Évangile partout dans son pays. Et plusieurs sont venus au Seigneur. Tu as peut-être peur de t'investir dans la vie des autres. Vas-tu te faire critiquer? C'est possible. Vas-tu être découragé? C'est fort possible. Mais brave tes peurs. Vas-y. Avance. Et le Seigneur est avec toi. Le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va préparer le terrain. Amen. Ce matin, on veut vraiment remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. On veut prendre la Sainte-Seine. Peut-être les frères peuvent venir pour distribuer les éléments. Et la Sainte-Seine, c'est vraiment pour ceux et celles qui ont compris le message du salut et sont venus par la foi au Seigneur Jésus pour recevoir le pardon de leurs fautes et qui sont passés par l'expérience de la nouvelle naissance. Si tu n'es pas rendu là, si tu n'as pas passé là, tu es encore en cheminement, tu réfléchis, tu chemines vers la foi, c'est correct. Il n'y aura pas de jugement, là. Tu peux laisser passer les éléments. Mais si tu as compris le plan du salut, tu as demandé à Jésus de te sauver, de venir à toi, de te donner la vie éternelle, viens, on t'invite à prendre ces éléments ensemble.